Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Pour les enfants, vous avez une classe ce matin, donc avec Madame Barnes. Nous avons terminé une série d'études dimanche dernier, une série de quatre messages sur recettes pour une restauration spirituelle totale avec le Seigneur. Et donc cette semaine, je me suis demandé pendant plusieurs jours dans quelle direction on pourrait partir. Et bien sûr, il y a toutes sortes d'idées qui passent par la tête. Mais en même temps, on cherche quelque chose qui soit utile pour notre vie spirituelle. Et je crois que le Seigneur m'a dirigé vers une nouvelle série. Une série qui prendra peut-être trois dimanches au moins, puis après on verra. Hein. La dernière devait prendre deux dimanches. Mais la nuée et la gloire de l'Éternel. La nuée et la gloire de l'Éternel. C'est quelque chose que l'on voit déjà dans l'Ancien Testament, mais qu'on revoit aussi jusque dans l'Apocalypse. Et donc, ces éléments qui sont constants tout le long de la Bible, qu'on trouve déjà au début et qu'on trouve à la fin, eh bien, ce sont des réalités qui nous faut saisir. Et donc, nous allons bien sûr commencer par la première manifestation de cette nuée, la première fois qu'on voit la nuée, la première fois qu'on voit la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel qui apparaît, qui est mentionnée. Et donc, ce sera dans le livre de l'Exode. Donc, Exode 14, hein, je vous donne le temps de trouver. Exode 14. Et si vous feuilletez un peu avant, un peu après, tout ça, vous arrivez à situer ce chapitre. Surtout que le chapitre est intitulé « Le passage de la mer Rouge ». Donc, c'est une des méthodes d'étude dans la parole, c'est de voir la première mention dans la Bible. Lorsqu'on a un concept, c'est de voir la première fois que ça a été mentionné, dans quel contexte, comment ça a été présenté, et puis ensuite de voir comment ça se développe au fur et à mesure de la révélation de la pensée de Dieu. Donc la première mention est ici dans le chapitre 14 de l'Exode. C'est ce chapitre où les enfants d'Israël sont là. Ils viennent de quitter Pharaon et le delta. Et puis ils se dirigent vers la mer Rouge, là où ils vont traverser la mer Rouge. Et c'est juste à ce moment-là, juste avant la traversée, que tout d'un coup, eh bien, on voit la nuée qui est un nuage, une colonne pendant le jour, et puis une colonne de feu pendant la nuit, et aussi la gloire de l'Éternel. Et peut-être que vous n'avez pas toujours pris conscience du fait que ce sont deux choses qui sont toujours présentes, et nous allons voir ça ce matin. C'est comment ces deux vérités sont là et s'accompagnent tout le long de la parole. Et donc, nous voyons déjà tout au début, c'est que Pharaon, au début du chapitre, ben, il se ressaisit, hein, il venait de libérer le peuple. Au chapitre 13, verset 17, nous dit « Pharaon laissa aller le peuple et Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Et donc déjà, quand Dieu conduit, il sait pourquoi il conduit, il prend le détour, mais le détour parce qu'il y a un travail à faire dans le cœur des enfants d'Israël pour les préparer. Parfois on se demande pourquoi nous avons des détours dans notre vie. Eh bien, le Seigneur sait pourquoi, même si nous ne savons pas pourquoi. Et donc, mais ce que je souligne là, dans ce verset, c'est que Pharaon, il nous dit, il laissa aller le peuple de Dieu. Bien sûr, c'est après les 10 plaies, il ne reste plus rien, hein, l'Égypte est en ruine économiquement, et il laisse partir, peut-être à contre-cœur, mais il laisse partir. Mais Et là, dès qu'il... le Dieu prend et commence à conduire le peuple, à l'aide de Moïse, et commence à conduire le peuple, et ils parviennent jusqu'à la mer. Et lorsque je lis à partir du verset 20, par exemple, il dit, ils partirent de Sukkot, et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc là, il nous donne un résumé comment les choses se sont passées, tout ce trajet jusqu'à la mer Rouge. Le chapitre 14 développe plus ce qui se passe. Hein, donc là, c'est un résumé rapide, une introduction. Et le chapitre 4 développe la chose, nous donne plus de détails. Mais on arrive dans le chapitre 14, et bien, verset 1 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils ne se détournent pas et qu'ils campent devant Phi Haïroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Voilà, hein, donc ils sont arrivés sur les berges de la mer Rouge. Et ensuite, Dieu prévoit les pensées qu'aura Pharaon. Et comme Dieu sait tout, et il a même cette prescience, c'est-à-dire qu'il lui permet de savoir, avant même que les choses arrivent, de savoir comment elles vont se passer. C'est une chose que l'être humain n'a pas. On essaye de temps en temps, on dit « si, eh bien, hein, et comme on le dit parfois, avec « si », on pourrait mettre Paris dans une bouteille. Hein, donc, mais en fait, on n'a aucun contrôle sur le « si hein. ». On essaie parfois de prévenir. Mais là, Dieu prévoit utiliser la réaction de Pharaon. Verset 4 dit, « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. » Et là, on voit la gloire de l'Éternel qui est mentionnée. Et il parle de ce désir de démontrer, de manifester sa gloire au peuple. Comment est-ce que ça se déclenche? Eh bien, au verset 5, il dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Oh, tout d'un coup, ça change. Hein? D'abord, on avait dit, ben, il les laissa partir. Et là, tout d'un coup, quand ils se ressaisissent, ah, ben, ils se sont sauvés. Hein? Je leur ai dit qu'ils pouvaient partir, mais alors, ils se sont sauvés. Vous savez, les êtres humains, c'est comme ça. Hein? Vous avez déjà peut-être, vous pouvez penser à une expérience, quelque chose, où on vous a... Hein? Et puis après, quand vous l'avez fait, il dit, oui, mais je ne pensais pas que vous le feriez. Hein. Mais là, c'est pour ça qu'on ne peut pas compter sur les êtres humains. Dieu est un Dieu qui garde sa parole. Et il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Mais les êtres humains, oh oui, combien de fois? Et alors là, tout d'un coup, eh bien, il rassemble son armée. Verset 6, Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui, il prit 600 chars d'élite, et tous les chars d'Égypte, et il y avait sur tous des combattants. Donc alors il a pris vraiment le meilleur matériel qu'il avait, et il va reprendre ce peuple, parce que tout d'un coup, hein, si tous ces esclaves, donc tous ces chantiers inachevés, ben, qui est-ce qui va les terminer? Hein, ce sera bien les Égyptiens qui devront les terminer, et donc c'est la panique. Donc, les versets 9, les Égyptiens les poursuivent et on arrive jusqu'à ce peuple. Et au verset 10, Pharaon approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Tout d'un coup, hein, vous pouvez imaginer, hein, vous mettez avec un peu d'imagination, vous pouvez mettre ça en vidéo. Ils sont là tranquillement, ils sont contents, on part, on ne sait pas où, mais on part, on est libre. Et puis tout d'un coup, ils voient les anciens maîtres qui arrivent. Et ça va être la panique. ça va être la panique. Parce que tout d'un coup, regardez la suite du verset, il dit « Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel et dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu pas fait en nous sortant, en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Vous vous rendez compte ce qu'ils peuvent dire ? Mais regardez bien le comportement. Et ça ressemble beaucoup à nous, hein. Parce qu'on vient de lire à la fin du chapitre 13, c'est qu'il y avait une colonne, une nuée qui les conduisait, et que la nuit, c'était une colonne de feu. Donc à tout moment, on pouvait être rassuré qu'on était conduit par l'Éternel. Mais là, tout d'un coup, on oublie la nuée, on oublie tout ce qu'on a vu jusque-là, on oublie toutes les plaies, ce que Dieu a pu démontrer par les plaies, tout est oublié. Tout d'un coup, c'est la panique. Vous savez, quand on détourne les yeux de Dieu, on détourne les yeux et les oreilles de la parole de Dieu, et on oublie ses promesses, vous savez, ça envoie dans la panique. Et après, on a des pensées, mais extraordinaires, contraires. Ce peuple qui était libre, et ça faisait seulement peut-être 48 heures ou 72 heures qu'ils étaient libres, et là, tout d'un coup, eh bien, c'est la panique, on aurait mieux fait de rester là-bas, l'esclavage, au moins, on meurt dans le pays. Je ne vois pas l'avantage, mais en tous les cas, ce sont des pensées, vous savez, des fois, ça part dans tous les sens. Et bien sûr, tout d'un coup, on ne pense plus à l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a promis de faire, et pourquoi on était parti, et qui était celui qui conduisait. Tout est perdu. Mais ce qu'on oublie, c'est que Dieu savait tout cela. C'était pas, Dieu n'est pas pris à court. Dieu savait que ça allait arriver. Il avait prévu, il a dit, je vais m'en servir. Le fait que Pharaon arrive, je vais m'en servir pour démontrer ma gloire. Vous savez, des fois on panique sur les événements de la vie. Parfois on a panique sur des choses qui arrivent. Mais Dieu dit, mais moi je sais pourquoi. Et je vais m'en servir, si tu restes fidèle, si tu gardes les yeux sur moi, je vais m'en servir pour démontrer qui je suis pour toi. Et comprenons que dans tout cela, le peuple d'Israël qui suit sans savoir exactement où on mène, parce qu'il n'y a pas de pont hein, sur le pont sur la mer Rouge. Personne, il n'y a pas un chemin. Ils sont en train de suivre la nuée, mais il n'y a pas une route. Pour un peuple pareil, il n'y a pas une route qui permet de partir par là-bas. Hein. Et puis après, en plus, il y a Pharaon et sa réaction qu'on pouvait attendre. C'est depuis toujours, il était comme ça. Hein, chaque fois qu'il y avait une plaie, au début, il dit oui, oui, oui. Mais puis dès que c'est un soulagement, ah non, 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 non. On le connaît, Dieu le connaît, il n'y a pas de surprise. Mais dans tout cela, le but de Dieu, c'est de manifester sa gloire. Et nous ne devons jamais oublier, et c'est un principe pour nous aussi dans notre vie, c'est que c'est avant tout le but de Dieu, donc ça doit être notre but, c'est la gloire de Dieu. Il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, il nous dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Les choses les plus banales. Il n'a pas dit, lorsque vous chantez au culte, lorsque vous priez devant l'église, faites tout à la gloire de Dieu. Il a dit, quoi que vous fassiez, que ce soit la nourriture, et on mange bien ici dans le sud. Que ce soit la boisson, et on sait boire. Parfois on en boit un peu trop, mais on sait boire. Il dit, et quoi que vous fassiez, faites tout à la gloire de Dieu. Si vous ne pouvez pas le faire à la gloire de Dieu, vous n'aurez rien à faire de le faire. Hein? Si je fréquente un endroit où je ne peux pas glorifier Dieu, alors je ne dois pas être là. Si j'ai une amitié qui m'empêche de glorifier Dieu, alors je n'ai rien à voir avec cette amitié-là. Ça ne m'empêche pas d'être gentil, d'être un bon citoyen, d'être tout cela. Mais c'est autre chose, une amitié, parce que ça, c'est un lien. C'est un engagement, une amitié. Bon, ça devient rare aussi. Hein. Mais il dit, faites tout à la gloire de Dieu. Et donc, pour Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour manifester sa gloire. Et nous, si nous sommes enfants de Dieu, dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher la gloire de Dieu. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un remarque, il ne dit pas « Ah tiens, Steve extraordinaire », il dit « C'est fou ce que Dieu a fait chez lui ». C'est ça qu'on doit à la réaction normale. Hein. Pharaon, il ne s'est jamais dit bah, « c'est, Ah, ce peuple d'Israël, quand même, ils sont étonnants ». Non, non, il a dit « Dieu est avec eux, il le dira ». Hein, dès qu'il commencera à perdre les roues sur ses chars et puis il verra la mer se refermer, là il dira « Ah, l'éternel combat pour eux ». Il ne pensera jamais à ce peuple. Il le connaît, ce peuple. Mais c'est le Dieu de ce peuple qui attire son attention. Il dit « Je ferai éclater ma gloire. Je la ferai, elle sera évidente, incontestable. » Et alors ce peuple-là, vous voyez, on arrivait au point là de ce déroulement où Pharaon arrive, sûr de lui, même s'il a perdu son fils, mais bon, il met ça de côté et il part avec sa troupe, son armée d'élite qui a une réputation mondiale à son époque. Et puis le peuple d'Israël est dans la panique et puis il ne sait plus où aller. Il y a la mer d'un côté et puis il y a le Pharaon de l'autre côté. Vous savez, ils sont pris dans un piège. C'est un cul-de-sac là. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Eh bien, au verset 14, l'Éternel, bon, je lis verset 13, les Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et vous gardez le silence. Laissez faire. Vous savez, ça demande parfois plus de foi pour se taire que pour parler. Il dit, faites-lui confiance. Celui qui vous a amené jusque-là, il vous emmènera plus loin. Vous ne voyez pas d'issue, vous parlez déjà de mourir dans le désert, lui pense à la délivrance. Il dit vous, il combattra pour vous, et vous gardez le silence. Et il y a une leçon pour nous là aussi, et puis... Surtout si nous sommes du tempérament à paniquer rapidement, eh bien le Seigneur nous dit, écoute, fais confiance à Dieu et tais-toi. Et là, Moïse est en train de le dire, écoutez, ne craignez rien, restez en place, Dieu va se servir de cette situation pour manifester sa gloire. Regardez au verset 17. Il dit, je commence au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrie ? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main vers la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent eux-mêmes. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. » Et dit, vous allez traverser parce que je vous dis de traverser, je vous dis de marcher, et donc par la foi, vous traversez. Parfois, je me demande s'ils auraient traversé s'il n'y avait pas les Égyptiens derrière. Hein, parfois, nous aussi, hein, il y a des choses, des fois, on prie et on crie à Dieu, mais parce que ça fait mal derrière, hein, il y a le feu derrière. Et donc on crie à Dieu, mais ce n'est pas parce qu'on exerce beaucoup de foi, mais plus de la peur. Mais vous savez, Dieu délivre quand même. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que même si nous ne sommes pas à la hauteur, eh bien lui, il est toujours à la hauteur. Hein? Et il dit, vous, donc taisez-vous, marchez. Et puis il dit, moi je me débrouillerai avec les Égyptiens. Au lieu de réfléchir, ils vont se lancer là-dedans, derrière vous. Et c'est là où ils auraient dû s'arrêter et dire, oh là là, qui est-ce qui a ouvert cette mer-là? Et peut-être il n'est pas avec nous. Mais Dieu dit, ils vont faire selon la dureté de leur cœur. C'est tout à fait... Il y a des gens qui sont gênés par le fait, ils disent, j'endurcirai leur cœur. Mais le cœur est endurci, mais il était déjà dur. Il n'a fait que devenir plus qu'il était déjà. C'est pas que Pharaon cherchait à connaître la vérité et Dieu l'a rejeté, ce n'est pas une chose pareille. Hein. C'est son cœur était dur, il avait déjà ses pensées et seulement il s'est enfoncé là-dedans. Et parfois on voit ça aussi autour de nous, des gens qui rejettent Dieu, et non seulement ils le rejettent, mais en plus ils deviennent contre. Hein, c'est la voie qu'ils ont choisie et ils se lancent encore plus dans cette voie. C'est un choix, c'est délibéré. Mais Dieu dit, je ferai éclater ma gloire. C'est là qu'on verra de manière indiscutable, ce sera évident aux croyants et aux non-croyants, ce sera évident aux enfants d'Israël qui sont peu croyants, ce sera évident aux Égyptiens qui sont contre, ce sera évident que Dieu intervient. Je ferai éclater ma gloire. Ce que je suis paraîtra, ils le verront. Ce qu'ils avaient vu tout le long, eh bien, les enfants d'Israël, eh bien, il y avait cette nuée. Et regardez comment ça s'est passé au verset 19. Hein, donc, Exode 14, verset 19. Il dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Facile à comprendre, hein. Il n'y a pas besoin de comprendre ni l'hébreu ni le grec, hein, pour comprendre ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que normalement, hein, pour ce peuple qui avait des animaux, qui avait des enfants, tout ça, ça ne progressait pas très vite. Tandis que Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, hein, c'était pas la même vitesse. Mais il n'arrivait pas à les rattraper. L'un, c'était le noir total, il n'arrivait pas à avancer, gagner du terrain. Et celui qui était devant... Eh bien, il n'y avait pas besoin de la colonne pour les conduire parce que, vous savez, quand on a un mur d'eau de chaque côté, il n'y a qu'une seule ouverture, on n'a pas besoin d'être conduit. Hein. Et donc, la nuée s'est placée entre les deux. Et le noir d'un côté, l'éclairage de l'autre. Et les enfants d'Israël marchaient dans la lumière, alors que les armées des Égyptiens marchaient dans les ténèbres les plus sombres. Vous avez remarqué le début du verset 10, il dit l'ange de Dieu. Cette colonne, c'était pas juste, vous savez pas, c'était pas juste une vapeur là, on pense à un nuage, une nuée, on dit non, mais c'était pas juste une vapeur, ça paraissait d'être. Et puis un nuage, les nuages la nuit, ça fait pas de la lumière. Hein. C'était pas comme un phénomène physiologique ordinaire, c'était très inhabituel. La nuit, c'était un éclairage, paraissait être comme un feu qui ne se consumait point. Et puis le jour, ben, c'était une nuée qui était visible dans un ciel. Là-bas, il n'y a pas un nuage hein, tout l'été. Il n'y a rien. Donc c'était l'unique nuage dans le ciel. Et ils sont conduits. ce que remarquez, c'est que cette nuée, cette colonne, qui représente la présence de Dieu, elle servait et pour conduire et pour protéger. Elle faisait tampon entre les deux camps et en même temps, elle conduisait. Et le message constant, c'était « Je suis avec vous. Je suis là. » Peut-être que les Égyptiens n'ont pas compris pourquoi ils ne voyaient pas. Et les enfants d'Israël, tellement ils étaient préoccupés par la situation qu'ils ne se rendaient pas compte que normalement il faisait nuit et que s'il y avait un éclairage pas artificiel mais surnaturel. Mais Dieu est là et il conduit. La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est pas juste un... Pour nous, on parle de présence, ben, il est là. Mais pour la présence de Dieu, c'est autre chose. Quand il parle de présence, ça veut dire je suis là, je conduis, je protège, je suis tout. Tout ce que Dieu est, tous ses attributs sont là, à sa disposition, là où nous sommes. C'est ça quand il parle de présence de Dieu. Vous savez, ici en France, on passe par un moment difficile, on a un Vigipirate, et donc un peu pour un peu démontrer la présence, on a des hommes qui circulent partout avec des tenues et des armes, et puis c'est pour assurer, dire on est là, on vous protège. Bon, parfois ça rassure, parfois ça rassure pas, mais c'est quand Dieu dit je suis présent, alors là c'est toutes les capacités. Et tous les moyens de Dieu, tout est là pour moi. Quand Jésus a dit à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous », il n'a pas dit, « Écoute, je reste un peu dans vos pensées, je pense à vous régulièrement, on n'est pas loin, je suis avec vous en esprit. » C'est ça qu'on se dit, nous, les uns les autres, parce qu'on ne peut pas faire mieux. Mais il dit, « Voici, je suis avec vous, dans tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je suis avec vous. » Et pouvait faire appel, et pouvait compter dessus. Et ce chapitre 14 s'y termine de manière très intéressante. Vous vous souvenez que Dieu a dit, je ferai éclater ma gloire. J'arrive au verset 31. Il dit, Israël vit la main puissante de l'Éternel, que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel, et en Moïse son serviteur. Tout d'un coup, regardez l'effet bénéfique que ça a eu. Oh, ils sont passés par une épreuve... ça fait peur quand même. Humainement parlant, ils ont frôlé la mort, ça c'est sûr. La destruction. Mais Dieu s'est servi parce qu'ils sont arrivés au point, ce peuple, bon, qui était peut-être le peuple de Dieu, mais il est dit ce peuple craignit l'Éternel et crut en l'Éternel. Vous savez, des fois on passe par des moments difficiles et on dit Seigneur, pourquoi tout ça. Mais une fois que c'est passé, on dit. Ah tiens, j'en ai quand même tiré des bonnes leçons là. Et puis l'expérience, et surtout les expériences qui ont été très difficiles, et on a vu la délivrance de l'Éternel, eh bien, deviennent des expériences de référence. Et même pour les enfants d'Israël, vous lisez le reste de l'histoire jusqu'à ce qu'ils partent en exil à Babylone, mais jusqu'à ce moment-là, chaque fois qu'ils passent par un moment difficile, eh bien, ils feront référence au fait que Dieu les a fait traverser la mer Rouge. C'est devenu une référence pour eux pendant des siècles. Vous savez, parfois aussi, nous avons des expériences que nous avons vécues, mais je continue à vivre le reste de ma vie spirituelle basée sur ce que j'ai vécu et ce que j'ai appris de Dieu dans cette expérience-là. Dieu a été fidèle avec moi, il m'a délivré, il a pourvu, il me le fera encore. Et c'est vraiment... Et c'est important. Vous regardez la vie d'Abraham, eh ben, vous comptez les autels qu'il a dressés, il y en a 3 ou 4, c'est tout, hein, une centaine d'années, hein, de sa vie. Il n'y a que quelques... Mais ces autels représentaient des expériences qui sont restées avec lui et qui lui ont permis d'être un homme de foi. Le fait qu'il y avait la nuée, qu'il y avait l'éclairage, la manière dont ça a conduit, la manière dont ça a protégé, la manière dont tout s'est passé, eh bien, ça a amené le peuple à croire, à faire un pas dans leur foi et leur confiance en l'Éternel. Regardez avec moi dans le chapitre 16. Chapitre 16 et au verset 10, où il y a une autre référence à la nuée. Parce que la nuée, on la voyait régulièrement, mais chapitre 16 et au verset 10, il nous dit « Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. » Donc, la gloire de l'Éternel... C'est-à-dire cette présence, c'est difficile parce qu'il n'y a absolument rien d'autre dans notre monde qui ressemble à cela. Hein. Quand on dit la gloire de l'Éternel, il n'y a absolument rien d'autre parce que Dieu pouvait parler à partir de la nuée. Et vous savez qu'une nuée n'a pas de corde vocale, il n'y a aucun moyen de parler. Et pourtant, on pouvait entendre la voix de Dieu de la nuée. La gloire de Dieu, toute la puissance de Dieu était là. Dans les études qui suivent, on va voir tout ce que la nuée pourra faire, la gloire de l'Éternel pourra faire. Et c'est vraiment Dieu dans sa grâce. Eh bien, il prend une forme que l'œil peut percevoir. Parce que vous savez, l'être humain, il est avec autant de foi qu'il a, mais parfois il a besoin de voir. Et pour les enfants d'Israël, eh bien, ils verront la nuée. Pour les disciples, dans les évangiles, eh bien, ce sera Jésus-Christ. Pour nous, aujourd'hui, eh bien, nous avons ce témoignage qui est là, que nous pouvons consulter à tout moment, que nous pouvons lire et nous rassurer et être conduits. Et bien sûr, nous avons le témoignage de l'Esprit de Dieu en nous, qui nous aide à comprendre cette parole. Mais la gloire de Dieu était là. On arrive au Exode chapitre 40. Exode chapitre 40, c'est donc le dernier chapitre du livre de l'Exode. Et nous avons une autre expérience avec la nuée. Les enfants d'Israël avaient été jusqu'à Sinaï, là ils avaient reçu... Et c'est là encore une fois, hein, c'était la nuée, la gloire de l'Éternel. Vous pouvez lire ces chapitres, chapitre 16, et vous pouvez voir comment Dieu lui-même a écrit les 10 commandements sur une pierre. Mais c'est là aussi qu'il leur a dit comment construire le tabernacle et tout ce que cela représentait, chaque meuble. Il leur a fait voir un modèle qu'ils ont reproduit. Et on arrive au chapitre 40. Et là, Dieu dit, donc c'est un an plus tard, hein, puisque c'est verset 1 du chapitre 40, verset 2, il dit « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. » Donc, tout le travail a été fait durant cette année, ils ont fait chaque pièce à part, et puis là, sur l'année de leur délivrance, eh bien, ils vont assembler tout le tabernacle. C'est un tabernacle qui a été fait pour être portatif, qui a pu être démonté, remonté régulièrement, au fur et à mesure des pérégrinations du peuple. Et donc là, ils vont le dresser pour la première fois. Et on peut lire là des versets 12 à 18, et ils nous montrent un peu comment ils ont rassemblé tout cela. Ils ont rassemblé, ils ont mis les choses en place telles que Dieu avait demandé. ils ont consacré chaque chose, ils ont purifié chaque chose, et les prêtres aussi, ils étaient consacrés, et tout est prêt. Et donc, on arrive au verset 33, à la fin du verset 33, eh bien, il nous dit, ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Remarquez que ce n'est pas lorsqu'il avait créé toutes les pièces et puis il dit, voilà, ça y est, on a fini toutes les pièces. Non, c'est quand tout a été rassemblé et que tout était en place et c'était prêt à partir. C'est là qu'il dit, il acheva l'ouvrage. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Verset 34. Et ce sont les versets 34 à 38 qui nous intéressent énormément. Parce que verset 34 dit, tout est en place, tous les meubles sont en place, tous les rideaux, tout est prêt. Et c'est à ce moment-là, verset 34, « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc vous avez la nuée qui se place au-dessus et vous avez la gloire de l'Éternel qui est dans le tabernacle. Et là, les prêtres ont dû sortir, Moïse a dû sortir, même Moïse a dû sortir, parce que la gloire de Dieu, c'est Dieu. Et quand Dieu investit quelque chose, il veut toute la place. Et il nous dit, la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et la tente était, et la nuée était au-dessus. Donc les gens de l'extérieur pouvaient savoir que Dieu était présent. Et ils pouvaient aussi, et en même temps, c'était rempli. Dieu avait gardé sa promesse, parce que Exode chapitre 29, verset 45, Dieu avait promis quelque chose à ce peuple. Exode 29, verset 45. Il dit, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. » Eh bien, il a fait cette promesse. Là, c'était du futur. « J'habiterai et je serai leur Dieu. » Eh bien, à ce moment-là, lorsqu'il a investi ce tabernacle qui était placé au milieu du camp, et les 12 tribus étaient tout alentour. Là, eh bien, ils ont vu Dieu, la nuée, venir prendre possession de ce tabernacle qui représentait le lieu, la résidence de Dieu. Et Dieu était présent. Et quand il a pris pleine possession. Tout ce qu'on pouvait voir de l'extérieur, on voyait la nuée. Mais en fait, si vous regardez dans Lévitique chapitre 16 et au verset 2, Moïse parle à Aaron, son frère, et dit « Afin que tu n'entres pas dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Le propitiatoire, c'était l'arche de l'Alliance, c'était le couvercle de cette caisse dans laquelle se trouvaient d'abord les 10 commandements, les pierres, et puis par la suite, il y a eu un bol contenant de la manne, et puis ensuite, il y a eu la verge d'Aaron qui a été placée. Et donc, mais le propitiatoire, c'est là où était aspergé, qui était aspergé chaque année de sang. Représenter la présence de Dieu et on présentait le sang de l'expiation pour l'expiation des péchés sur ce propitiatoire. Il dit, c'est là tu verras la nuée aussi. La nuée paraîtra. La présence de Dieu, donc la nuée était au-dessus, mais la nuée était dedans aussi. La présence de Dieu, il avait investi. C'est vu de l'extérieur, mais c'est surtout, il prend possession de l'intérieur. Et Exode 40... Et je reviens à Exode 40 et je lis les derniers versets. Verset 36, à 38, il dit « Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. » Dieu n'a jamais quitté, il n'est jamais parti. Bon, combien de fois ils se sont mal comportés, mais il est resté là. Il n'était pas là parce qu'ils étaient bons, il était là parce qu'il était Dieu. Et parce qu'il est fidèle. Nous avons un peu la même vérité concernant le Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui. Hein, ce n'est pas parce que nous sommes des bons chrétiens qu'il est là, mais c'est parce que Dieu est fidèle à sa parole et quand il donne, c'est donné. Hein, on disait dimanche dernier. Et où est la gloire de l'Éternel aujourd'hui? Eh bien, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, Paul nous rappelle, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Habite, ça ne veut pas dire seulement il y a un symbole, il y a quelque chose qui le représente, sa présence. Non, non, il habite. Quand on habite, c'est qu'on est chez soi. Je me comporte autrement chez moi que chez quelqu'un d'autre. Quand vous venez chez moi à la maison, je vous dis, mettez-vous à l'aise, mais n'oubliez pas que c'est chez moi. Mais là, il est chez lui. Il dit, n'oubliez pas, il dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous, l'Église, la communauté, vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, vous imaginez qu'il veut aller partout. Non seulement est-ce qu'il est présent dans, mais c'est qu'il doit être visible de l'extérieur et que les autres puissent voir qu'il est là. C'est comme ça que quand Dieu investit quelque chose, eh bien, il possède tout, mais en même temps, il laisse savoir qu'il est là et que tout le monde le sache. Hein. C'est un peu comme cette pratique en Angleterre, quand la reine est dans un palais, eh bien, il y a un drapeau qui est sur le palais. Hein, comme ça, tout le monde sait qu'elle est là. Hein, si vous ne voyez pas le drapeau, c'est qu'elle n'est pas là, même si c'est le palais royal. Mais si le drapeau est là, la reine est là. Eh bien, c'est un peu ça que Dieu, comme ça que Dieu fait les choses, c'est que dans l'Église, il veut posséder, mais en même temps, il veut que le monde extérieur sache qu'il est là. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué pour nous. Comment est-ce que Dieu peut être visible au monde extérieur dans notre communauté, dans notre Église? Les gens, ils sont là et puis ils sont en train de dire « Oh, Dieu n'existe pas, laisse tomber, il est mort, il est parti. » Ils ont toutes sortes de choses à dire. Et vu ce qu'ils voient, peut-être que c'était une déduction logique. Mais la réalité, c'est que Dieu n'est pas mort, Dieu vit toujours, il existe toujours, il agit. Mais comment savoir qu'il est parmi nous? Si la seule raison qu'ils ont de croire qu'il est avec nous, c'est parce qu'on le dit. Non, il dit, on aimerait voir, parce qu'ils n'ont pas la foi. Vous savez ce que Jésus a dit à ses disciples? Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parce que l'amour dont Dieu parle, c'est, je dirais l'amour avec un A majuscule, hein, pas l'amour qu'on trouve dans le monde. Hein, c'est, vous savez, beaucoup de l'amour qu'on rencontre dans le monde, c'est un peu comme les chats quand vous êtes en train de nettoyer des poissons. Ils viennent là, ils vous caressent, miaou! Mais quand il n'y a plus de poissons, eh ben, il n'y a plus de chats. Vous savez, c'est ça l'amour dans le monde. Mais je parle de l'amour, cet amour qui se sacrifie, l'amour qui se donne. Hein, il dit, cet amour-là, eh bien, le monde sait que vous ne l'avez pas en vous. Et si ça existe, si c'est présent, si ça se manifeste, ça se pratique, c'est que Dieu est présent. C'est pas plus compliqué que cela. Et on n'a pas besoin d'en parler. Et vous avez entendu ces témoignages, les gens, ils pénètrent et puis ils viennent comme ça, et puis ils ne sont pas croyants, tout ça. Ils disent, ouais, mais j'ai senti, il y avait quand même un quelque chose que je ne sens pas ailleurs. Il y a cette... je sais souvent, là, les gens venaient à Saint-Denis, puis ils voyaient un mélange de vous avez toutes les couleurs, hein, il y avait du jaune, du marron, du noir, du blanc, toute la palette. Et puis, c'est pas seulement ça, hein, c'est une chose d'avoir des gens de toutes les couleurs, mais c'est avoir... Mais en même temps, on voyait qu'il y avait des cultures très différentes, des nationalités très différentes, et normalement, tout ça, ça... c'est pas évident, hein. Comme disait un voisin, il m'a dit un jour, mais Steve, comment tu fais? J'ai dit, quoi, fais quoi? Il dit, mais comment tu arrives à rassembler tous ces gens-là? Ils s'entendent bien, on dirait qu'ils s'entendent bien. Je lui ai dit, bah, c'est Dieu. Il dit, comment tu fais? Je dis, moi, je sais pas, moi, c'est Dieu, hein, je peux pas, moi, je connais pas autant de réponses. Il dit, moi, j'étais à la Légion d'honneur. J'étais un gradé dans la Légion d'honneur, et on avait tout le temps des problèmes. Et toi, bah, ils sont là, ils s'entendent, ils s'aident, et puis ils se rendent service, et je dis, je comprends pas. Oui, il a vu. Il n'est pas venu à la foi, que je sache, mais il a vu ce qu'on ne peut pas. Il savait que ça ne s'invente pas. C'est pas parce qu'on a signé des statuts que ça marche. C'est qu'il faut qu'il y ait une œuvre qui se fasse. Et ça, Jésus a dit, lui-même il a dit, à ceux-ci tous connaîtront. La responsabilité qui nous reste à nous, eh ben, c'est justement de pratiquer ce commandement, de nous aimer les uns les autres, mais de l'amour de Dieu. Il est gentil avec moi, je l'aime. Pas besoin d'être chrétien pour ça. On trouve ça ailleurs aussi. Et quand tu es plus gentil avec moi, je t'aime plus. Même des gens qui sont mariés. Et vous savez, il y a un truc, je vous dis un petit secret. Le diable, il n'encourage pas les gens à s'aimer. Donc s'il y a l'amour, on sait que le diable n'est pas là. Parce que lui, il ne va jamais aider quelqu'un à s'aimer. Ah, mais de la zizanie, oh oui, oh, il sait bien faire ça. Il dit juste deux mots comme ça, il dit ça, puis il s'en va, et puis il laisse les autres se battre. Hein, ça arrive dans les cours des récréations tout le temps. Hein, ou dans les rencontres de famille. Hein, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, tout d'un coup, bah, la soirée, elle a changé. Mais l'amour, c'est autre chose. L'amour de Dieu présent, pratiqué dans la communauté des croyants, est la manifestation de la présence de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Et notre ennemi il peut faire des choses extraordinaires, des choses frappantes. Satan, il arrive à faire des miracles, il arrive à faire toutes sortes de choses. Mais il ne fera jamais de l'amour, avec un A majuscule. N'oublions pas que la gloire de l'Éternel est la manifestation de la sainteté, de la vérité et de l'amour. Ces trois éléments, si on pouvait vraiment réduire Dieu à peu de choses, c'est plus compliqué que ça, mais pour nous en tous les cas, la gloire de Dieu, c'est la sainteté de Dieu, c'est la vérité de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Vous rassemblez tout cela, vous avez ce que la gloire de Dieu, ça le définit et il n'y a personne d'autre, il n'y a aucune autre créature qui a ça réuni en une seule personne. Et sa présence sera visible parmi nous lorsque dans notre vie, il y aura, je ne dirais pas sainteté, mais je dirais pureté, lorsqu'il y aura vérité et lorsqu'il y aura amour. Et vous savez pourquoi pureté? Parce que cela reflète la sainteté de Dieu. 1 Pierre nous dit... Dieu est saint. Vous serez saint car je suis saint. Vérité, ben c'est la manifestation du Fils qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Et l'amour, eh bien, il a dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » Et vous avez la présence de Dieu la Sainte Trinité qui est présente lorsque ces éléments apparaissent. Et qui reçoit la gloire quand quelqu'un voit cela? Eh bien, il ne fait pas des compliments sur quelqu'un, mais il dit gloire à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur désire voir. C'est ce qu'il a entrepris, et sous des formes de symboles dans l'Ancien Testament, mais ça reste inchangé pour nous aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu recherche. Ce n'est pas des gens qui savent s'asseoir pendant une heure et demie gentiment dans une salle. Ce n'est pas ça qui fait le chrétien. Ce qui fait le chrétien, c'est lorsqu'il y a, on voit leur relation et on voit leur manière de faire, on voit leur vie. Et on dit, Dieu existe. Nous allons prendre un temps de recueillement, que chacun médite et évalue sa vie et regarde et dit, mais est-ce que vraiment j'ai ce sentiment que Dieu habite dans ma vie, qu'il est, et puis ensemble, est-ce que Dieu habite réellement dans notre Église et que ça soit visible et de manière indiscutable par le monde extérieur, que le Seigneur nous aide, nous en prendre un temps où chacun pourra s'exprimer dans le silence de son cœur devant le Seigneur, puis après quoi je prierai. Thank you.